la vie de l'IAE, un entretien réalisé par les étudiants de l'IAE d'Annecy.
Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Benoît Loquet, DRH d'Adixen Vacuum Products, pour parler de son entreprise. Bonjour Monsieur Loquet.
Bonjour.
Tout d'abord, que produit Adixen ?
Alors Adixen, c'est déjà l'ancien nom de la société qui s'appelle maintenant Pfeiffer Vacuum SAS, pour être très précis, donc vacuum comme vide en anglais. Et donc comme son nom l'indique, Pfeiffer Vacuum est spécialisé en technologie du vide. La technologie du vide, c'est donc l'ensemble des pompes, puisque ce sont des pompes, qui permettent de faire du vide dans des enceintes, dans lesquelles nos clients fabriqueront leur production. Production pouvant être des composants électroniques, des micro-capteurs, enfin tout un tas d'éléments qui nécessitent de l'ultra-propre, puisque le vide, c'est l'ultra-propre. C'est une particularité d'une pièce ou d'une enceinte où on aurait enlevé l'intégralité de tout ce qui peut venir perturber une production, donc les molécules de gaz, les poussières bien évidemment, les molécules d'eau, etc. etc. Voilà, donc on est spécialisé en technologie du vide, c'est-à-dire on vend à nos clients un système de pompage qui lui permet de faire du vide dans une enceinte.
Pourquoi avoir décidé de rester sur le bassin annécien ?
Alors décider, ben, c'est parce qu'historiquement on est implanté dans le bassin annécien depuis plus de 60 ans maintenant. Historiquement on était une société qui appartenait au groupe Alcatel, qui a suivi une évolution en fonction de ses marchés, de ses clients, hein, qui a commencé par la fabrication de tubes de torpilles dans les années 50 pour la marine nationale, et puis qui s'est développé avec l'arrivée du programme nucléaire en France, qui a nécessité des besoins de justement de compétences en vide. Et donc comme ici sur Annecy, il y avait une bonne compétence en mécanique de précision, l'entreprise s'est orientée de plus en plus vers la technologie du vide et on est devenu spécialiste en technologie du vide. Et on est resté sur Annecy, parce que sur Annecy, on a toutes les compétences nécessaires pour répondre à nos nécessaires besoins.
En 2011, la société qui s'appelait alors Alcatel Vacuum Technology a été rachetée par l'allemand Pfeiffer Vacuum Technology AG. Quel changement cela a provoqué pour vous ?
Alors, c'est un changement qui est plus culturel qu'opérationnel ou économique, hein, puisqu'on est passé d'un grand groupe qui s'appelait Alcatel, hein, de plus de 40 000 personnes, et on a constitué un groupe de, maintenant à l'échelon mondial de 2 000 personnes. On est nous à peu près 600 personnes sur le site ici et à peu près 100 ou 200 intervenants supplémentaires, intérimaires, prestataires, sous-traitants. Donc la grosse nouveauté pour nous a été de peser beaucoup plus en termes économiques et en termes organisationnels et prise de décision dans un groupe qu'on ne le faisait avant, puisque quand vous êtes 600 personnes dans un groupe 40 000, vous existez, entre guillemets, moins que lorsque vous êtes 600 dans un groupe de 2 000. Voilà. À part ça, ça n'a pas eu de grands changements, puisque notre activité est restée telle qu'elle était avant, les équipes en place, les budgets, les clients, les façons de fonctionner, etc., etc. Donc je dirais pas de gros changements au quotidien, une évolution de prise de conscience que maintenant ce que l'on faisait avait un impact beaucoup plus fort à l'échelle du groupe que ce que ça pouvait l'avoir avant.
Le fait d'être acheté par un groupe étranger, donc allemand en l'occurrence, est-ce que ça vous a aidé à arriver à ce stade où vous faites plus de 90% de votre chiffre d'affaires à l'étranger ?
Non, ça ne nous a pas aidé dans la mesure où on le faisait déjà avant, puisque au sein d'Alcatel, qui était un groupe spécialisé en télécommunications, on était un petit peu atypique, puisque nous, on était déjà une société mécanique de fabrication de pompes à vide et de systèmes de pompage. Donc on était déjà autonome. On avait notre propre réseau commercial, nos centres de services, nos filiales, etc. Le fait d'avoir été racheté par un groupe allemand, qui en fait était notre principal concurrent à l'époque, donc on a été racheté par notre concurrent, et donc maintenant, à deux, on est beaucoup plus fort, n'a pas eu d'incidence sur nos ventes, sur nos clients. Chacun reste sur ses territoires, ses compétences et ses clients. Il y a des synergies qui se dessinent au niveau de la R&D, au niveau de la mutualisation des moyens de service, mais il n'y a pas eu d'autres incidences ou d'autres aides particulières de rejoindre le groupe allemand. Si ce n'est que maintenant, on a une visibilité qui est quand même beaucoup plus forte par rapport à la bourse et aux gens, aux financeurs, et donc on a plus facilement la possibilité d'investir ou de mettre des moyens supplémentaires parce qu'on est mieux compris de notre vrai monde aujourd'hui, qui est la technologie du vide, alors qu'avant, encore une fois, on était plus dans le monde des télécoms et donc moins compris de décideurs extérieurs.
Donc ces synergies vous aident à rester à la pointe de votre secteur ? Vous faites également partie de clusters européens tels que Catren, ENIAC et de pôles de compétitivité régionaux tels que ARV Industrie. Ça a vraiment une forte influence sur votre capacité à produire des améliorations techniques ?
Oui, ça a une incidence forte, bien sûr, puisque travailler tout seul dans son coin, c'est bien, mais travailler en réseau avec des experts des différents domaines qui nous permettent à nous, ensuite, de fabriquer mieux les produits, c'est très précieux, quoi. C'est vraiment une grande utilité. Et c'est pour ça qu'on a des coopérations avec des organismes que vous avez cités, hein, qui sont aussi des cercles de réflexion. Des fois, c'est pas forcément que de la technique, hein. Ça peut être aussi des échanges entre pairs sur des sujets d'ordre organisationnel, évolution de l'entreprise, etc., etc. On n'est pas que dans la technique pure de la R&D.
Vous êtes également membre du club des entreprises de l'Université Savoie-Mont-Blanc. En quoi cela vous apporte un regard sur le monde académique ?
Alors, autant les premiers organismes qu'on a cités tout à l'heure, club des entreprises, c'est la partie professionnelle, autant le club des entreprises là, lié à l'Université de Savoie, là, ça nous met le pied aussi, et vice-versa, dans le monde universitaire. Et donc, ça crée des liens forts entre le monde industriel que nous sommes et le monde universitaire. Et ça nous permet également, je dirais, d'avoir notre mot à dire dans les propositions d'évolution des différentes écoles qui constituent l'Université de Savoie. Ça nous permet aussi de proposer des stages, ça nous permet de rencontrer d'autres entreprises, des étudiants. Enfin voilà, il y a cet échange qui est très riche et qui nous permet aussi de sortir de notre petit environnement purement professionnel ou purement, je dirais, laboratoire de recherche ou grands organismes d'État.
Au cours des dernières années, les préoccupations environnementales ont pris de plus en plus d'influence. Vous étiez déjà bien à la pointe dans ce niveau-là. Parlez-nous du projet Green Lab Fab, s'il vous plaît.
Alors, le projet Green Lab Fab, c'est en fait une extension de notre, notre usine d'usinage, puisque on peut imaginer que notre site complet a deux usines, enfin qui n'en font qu'une. Il y a la partie usinage et il y a la partie montage. Donc, bien sûr, la partie usinage, comme son nom l'indique, usine des métaux pour en faire des pièces avec des niveaux de tolérance très très fines. Ces pièces ensuite partent sur la partie montage, sont assemblées, ça fait en produit final une pompe ou un système de pompage. Et donc lorsque la question s'est posée de faire une extension de l'usine actuelle, la réflexion a été de dire, tant qu'à faire les choses, il faut les faire le mieux possible dans l'état des meilleures connaissances qu'on a aujourd'hui pour respecter l'environnement. Et donc ce projet-là a été présenté à la mairie, à la région, au département, etc., avec une connotation très fortement poussée environnementale. Et ce projet donc, a abouti à une extension de l'usine usinage avec tous les moyens possibles imaginables de non-impact environnemental. C'est-à-dire que tous les fluides sont captés, tous les rejets atmosphériques, pareil, sont captés, filtrés, etc., etc. C'est des circuits fermés en matière de consommation d'eau avec une centrale de filtration, c'est des lampes à économie d'énergie, c'est tous les moyens possibles qu'on a pu mettre pour faire ce qu'on appelle une usine verte. Un Green Fab Lab, ça veut dire une usine un peu laboratoire verte, donc écologique. En tout cas, le moins impactant possible pour l'environnement.
Effectivement, quand on va dans vos locaux, on remarque que vous avez mis en place une forte structure de tri sélectif dès l'entrée. C'est aussi une importance pour vous ?
Oui, oui, on a fait plus que ça. On a beaucoup réfléchi sur tout ce qu'on pouvait faire. Alors des fois, c'est de l'ordre un peu du symbole, mais qui pour nous sont quand même importants. On peut citer par exemple, on a mis des ruches sur notre site. Il y a trois ruches avec des abeilles qui font du miel et qui sont très bien ici. On a mis quelques nichoirs, on a ce qu'on appelle des croque-feuilles, c'est-à-dire tous les papiers sont récupérés dans un circuit de récupération séparé, les cartons, les métaux sont à la source triés et recyclés, etc., etc. Donc on a une vraie démarche environnementale, une vraie réflexion qui nous oblige, mais on ne le fait même pas façon forcée, ça devient naturel, hein, qui nous oblige à avoir une conscience un petit peu écologique, en tout cas non impactante, assez poussée sur le site.
Dernière question, votre effectif est composé à 83% d'hommes, pourquoi ?
Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est quand même dans le monde de la mécanique, et dans le monde de la mécanique, historiquement, c'est un monde masculin. Si vous considérez qu'un tiers de nos effectifs sont des ouvriers spécialisés en mécanique, c'est des populations qui sont essentiellement masculines, forcément. Donc voilà, c'est pas une volonté du tout. Maintenant, si on avait fait ce pourcentage dans les bureaux, vous auriez trouvé à mon avis l'exact opposé, puisque certains métiers sont quand même plus féminins que d'autres, et certains sont plus masculins que d'autres. Voilà, donc notre volonté aujourd'hui, c'est d'essayer de faire un petit peu plus de parité, le mot est fort, parce qu'on ne va pas aller jusqu'à la parité, mais enfin, de mettre un petit peu de féminisation dans les métiers mécaniques de production, et on y arrive, puisqu'on commence à trouver des dames qui sont dans des métiers d'usinage, hein, et puis le contraire aussi, après, essayer de trouver aussi des hommes pour mettre dans les bureaux où il y a des postes ou des métiers qui sont réputés être plus féminins. Donc le 83%, voilà, c'est le total des effectifs au regard de l'activité qui est quand même essentiellement mécanique. Donc poids de l'histoire.
Merci Monsieur Lequet.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir. Quant à nous, chers auditeurs, nous nous retrouverons dans 15 jours pour un nouvel entretien.
Cet entretien a été réalisé par les étudiants de l'IAE d'Annecy.